J'aimerais parler sur la joie de l'Éternel sera votre force. Dans Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent une joie superficielle. C'est la joie que le monde connaît, cette joie éphémère, cette joie factice, cette joie qui ne dure pas, qui est liée d'ailleurs au plaisir du monde. C'est pourquoi il y a une grande part du temps que les gens consacrent au loisir, à rechercher une sorte de changement d'idée, changement de se changer les pensées, chercher autre chose que le travail et la routine de la vie. Ça, c'est la joie du monde. Mais cette joie-là n'a rien à voir avec la joie dont nous allons parler ce soir, qui est la joie des chrétiens. D'où vient la joie des chrétiens? Elle vient de notre relation avec Dieu. La Bible dit au psaume 16, verset 11, « Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternels à ta droite. » La véritable joie, celle dont nous allons parler ce soir, c'est celle qui se trouve quand on est en communion avec le Seigneur. Et Dieu désire nous remplir de cette joie surnaturelle. Il y a un auteur américain qui s'appelle Demos Shekharian qui a écrit un livre intitulé « Les gens les plus heureux de la terre ». Et dans ce livre, il raconte comment Dieu l'a conduit à créer cette organisation qui s'appelle les entrepreneurs. Il témoigne auprès des entrepreneurs, en fait. Et en fait, ça s'est tellement développé que ça s'est bien répandu dans le monde entier. Mais le titre de ce livre nous rappelle que notre joie n'est pas fondée sur ce que nous avons dans ce monde, mais elle est vraiment fondée sur Dieu et sur sa parole. Alors j'aimerais voir justement cette joie avec Paul et Silas. D'abord, le premier point, si vous voyez, vous vous rappelez de ce récit, c'est que la joie de Paul et Silas va se situer dans un moment très sombre. On est au milieu de la nuit dans une prison. Donc je rappelle un petit peu le contexte, c'est tout le chapitre 16. Ben, dans le chapitre 16, il y a la conversion de Lydie, un petit peu avant. Ça, c'est une grande bénédiction. Le salut est entré dans sa vie, elle a changé. Ensuite, il y a une femme possédée d'un esprit de Python, c'est-à-dire un esprit de révélation qui est délivré. Donc, merci Seigneur, l'œuvre de Dieu se fait. Sauf que, après ces bénédictions, ça suscite des persécutions. Et les maîtres de cette femme, cette servante, qui gagnait de l'argent avec ses prédictions, ne pouvant plus dire l'avenir, puisqu'elle avait été délivrée de cet esprit de divination, eh bien, les maîtres se sont insurgés contre Paul et Silas pour leur interdire d'annoncer l'évangile. Et ils les ont humiliés, c'est-à-dire ils ont arraché leurs vêtements, ils les ont frappés, battus de coups, ils les ont accusés injustement, ils les ont placés dans un procès expéditif et ils les ont jetés en prison, avec cette précision, les ceps aux pieds. Les ceps aux pieds, ça veut dire qu'ils avaient les pieds attachés dans du bois. Donc c'était vraiment une condition, on pourrait dire, qu'est-ce qu'il y a de joyeux dans cette affaire ? Deux serviteurs de Dieu, maltraités, battus, injustement accusés, dans une prison, les ceps aux pieds. Je ne sais pas où on va chercher la joie dans ces cas-là. Il n'y a qu'en Dieu qu'on peut trouver une joie dans ces cas-là. C'est impossible de vous réjouir si Dieu n'est pas avec vous. Et si vous êtes chrétien, vous passez peut-être par le rejet, parce que certains ne vous apprécieront pas, parce qu'ils vont se moquer de vous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en retour ? Est-ce qu'on va les haïr ? Est-ce qu'on va rendre l'appareil, riposter ? Et Jésus nous montre le chemin du pardon. Et il nous dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, Paul et Silas, ils ont prié, ils ont béni, ils ont continué à conserver leur relation avec Dieu, malgré les persécutions. Et cette nuit-là, en fait, comme nous, Paul et Silas avaient deux possibilités. La première, c'était de se plaindre et de se dire, ben, c'est pas normal, on est chrétien et avec tout ce qui nous arrive, ben, vraiment, c'est pas la peine de continuer à annoncer l'évangile. Donc ça, c'est la première option. Et ça, c'est l'option de la chair. Et souvent, nous suivons cette option-là. C'est la première option, l'option naturelle, l'option de la nature charnel. Deuxième possibilité, c'est de ne pas se focaliser sur la souffrance et la situation présente, de se tourner vers Dieu dans la reconnaissance et dans la foi et de le louer de tout leur cœur. C'est ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi la possibilité numéro 2, c'est-à-dire avoir une attitude tournée vers Dieu. Et ça entretient la vie de l'esprit. Donc, la première solution, se plaindre et dire que ce n'est pas normal et que Dieu nous a oubliés, ça, c'est la chair. Et puis, louer Dieu dans une situation incompréhensible, c'est l'esprit. Et c'est un choix. C'est un choix que nous devons faire. Ce n'est pas naturellement que ça va venir tout seul. Ils se sont décidés, alors que tout leur disait de se plaindre, ils se sont décidés à louer Dieu. Personne ne choisit d'être au milieu de la nuit dans l'épreuve, mais par contre, hein, c'est vrai que Paul et Silas n'avaient pas choisi de se retrouver ce jour-là dans cette prison, accusés, maltraités, mais ils ont pu choisir de louer Dieu dans cet endroit-là. Ça, c'est ce que nous pouvons faire. Et c'est ainsi où nous serons éprouvés, c'est notre attitude dans l'obscurité, dans la nuit, au milieu de la nuit. Quelle attitude allons-nous choisir ? Je prends l'exemple de cette femme dans la Bible. Elle aussi, elle passe par l'obscurité, elle a perdu son mari. Son mari d'ailleurs qui était prophète, c'était un croyant, il servait Dieu, il a été repris. Et donc elle se retrouve seule avec ses enfants, elle a des dettes, elle ne peut pas payer, il n'y a pas les sécurités, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien comme aujourd'hui qui peuvent aider les personnes, elle devait se débrouiller. Et les seuls moyens qu'ils avaient pour s'en sortir, c'était de vendre leurs propres enfants qui allaient devenir des esclaves et avec cet argent pouvoir rembourser la dette. Elle était arrivée donc au bout du bout. Et lorsqu'Élisée arrive dans cette maison qui est dans la nuit, dans l'obscurité, qui n'a pas d'issue, alors Élisée demande à cette femme, mais qu'est-ce que tu as dans la maison ? Et la première réponse de cette femme, c'est, elle dit, je n'ai rien, je n'ai rien. Et en réalité, elle avait quelque chose, mais elle ne le voit pas dans un premier temps. Elle dit, je n'ai rien, et c'est peut-être notre position à nous, c'est-à-dire quand tout va mal, on peut dire, ben, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien, on n'y arrivera pas. Et puis, elle continue, et elle se rappelle, ah mais j'ai un petit vase d'huile. Un petit vase d'huile, ce n'est pas grand-chose. Avec un petit vase d'huile, on peut rien faire quasiment, mais on peut faire quand même quelque chose. Et donc, c'est par ce petit vase d'huile que Dieu va mettre une promesse dans le cœur d'Élisée, pour dire à la femme, l'huile qui est dans le pot ne diminuera point, donc tu vas chercher autour de toi des vases, prends-en un grand nombre, le plus grand nombre que tu peux, et l'huile ne diminuera point, et tu vas verser dans les vases. Et ça, c'est la part de Dieu maintenant. C'est le miracle qui a lieu la nuit. Et cette femme a choisi de faire confiance parce que là encore, vous avez une parole de Dieu qui vient. Vous avez, dans votre situation de nuit ou de prison, vous avez une promesse. Mais il faut faire le choix d'obéir, il faut faire le choix de croire. Et donc, elle est allée chercher ses vases. Ça, c'est l'épreuve de la foi. Ça veut dire, est-ce qu'on va obéir ou pas à la parole de Dieu? Elle l'a fait. Elle a ramené un très grand nombre de vases, si bien que tous ces vases ont été remplis. Elle a pu vendre cette huile qui valait un argent considérable et ça a remboursé ses dettes et ses enfants n'ont pas été esclaves. Donc, c'est un choix à un moment donné où nous serons tous au pied du mur et nous devrons aussi faire le choix, soit le choix des plaintes, des lamentations, de dire « Dieu m'a abandonné », ou soit le choix de dire « Dans mon épreuve, je loue l'Éternel et je lui fais confiance pour me sortir de cette situation. » Vous serez à ce carrefour-là. Et les apôtres ont connu ces types de revers. Alors qu'ils annonçaient l'Évangile, il y avait des conversions. Vous lisez dans Actes chapitre 5. Eh bien, ils ont été arrêtés, donc ça c'est les apôtres, ils ont été fouettés parce qu'ils enseignaient au nom de Jésus et on leur a interdit formellement de prononcer, de parler au nom de Jésus. Et le texte dit, c'est dans Actes chapitre 5 et au verset 41, « Ils se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Et cette joie-là, ce n'est pas la joie de ce monde, c'est la joie qui vient de Dieu dans votre cœur, parce que ce n'est pas possible de vous réjouir quand vous avez été outragé. Donc on trouve cette joie parmi les chrétiens persécutés. On a eu des témoignages de chrétiens qui venaient de pays persécutés, et franchement, ils dégageaient une joie, mais qu'on a du mal à trouver même chez nous. Nous, on n'est pas persécutés, hein, on est quand même dans un pays libre, on peut parler du Seigneur, vous pouvez témoigner assez facilement. Mais dans les pays persécutés, ils risquent leur vie. Et ils dégagent une joie, mais alors, extraordinaire. Ça doit nous interpeller quelque part pour se dire, mais nous qui avons ce confort et cette facilité, est-ce qu'on a la joie? Est-ce qu'on entretient cette joie? Ou est-ce qu'on a fait un autre choix? On a fait l'option des plaintes et des gémissements, comme ça aurait pu être le cas pour Paul et Silas. Alors peut-être, c'est notre situation, on est là, on est dans la nuit, au milieu de la nuit, mais malgré cela, on peut quand même recevoir la joie du Saint-Esprit, la joie du Seigneur, et se rappeler d'ailleurs, quand vous voyez ce verset 25 qui dit « vers le milieu de la nuit », c'est-à-dire que l'épreuve, elle a un début, un milieu et une fin. Et quand vous êtes au milieu, vous pouvez vous dire que y a déjà un bout qui a été fait, mais ça veut dire que cette nuit, elle ne va pas durer toute la vie. Vous êtes peut-être au milieu, mais ça veut dire qu'il y a un bout à faire, mais après, ça va se terminer. Donc, considérez que le milieu de la nuit, ce n'est pas une nuit qui ne finira jamais jusqu'à votre mort. C'est un passage. Et donc, ils étaient là au milieu. Et Dieu connaît le terme de cette nuit. Et ça va augmenter nos forces de se dire que nous avons l'espérance que cette nuit n'est pas pour toujours, et que Dieu va amener la lumière dans cette situation, qu'il va amener la délivrance. N'oublions pas la dimension du miracle, parce que toute la Bible, en fait, elle contient des miracles. Il y a des théologiens aujourd'hui qui sont libéraux, on les appelle des théologiens libéraux, ils ne croient pas dans les miracles de la Bible. Mais si vous enlevez les miracles de la Bible, qu'est-ce qui va vous rester comme Bible? Elle va se réduire comme une peau de chagrin, parce que les miracles, il y en a partout. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a des miracles, c'est la main de Dieu, c'est l'intervention de Dieu. Vous enlevez les miracles, mais c'est plus le même Dieu, c'est plus la même Bible, c'est plus la même foi, donc c'est plus pareil. Est-ce qu'on a le droit de louer Dieu quand tout va mal? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit? On a le droit, mais ce n'est pas naturel, mais on a le droit de le faire. Et dans votre situation, la première pensée qui vous vient, c'est à quoi bon louer Dieu puisque ça va mal, voyez ? On raisonne à l'envers. À quoi bon louer Dieu ? Ce n'est pas la peine de louer Dieu. Dieu t'a abandonné, pourquoi tu vas louer Dieu ? Ne loue pas Dieu. Voilà. Et on reste sur cette position-là. On vient à l'église, mais on ne loue pas. Ou on est à la maison, mais on ne loue pas. La louange, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Vous connaissez bien le psaume 34, psaume de David, qui commence ainsi : « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors, il l'écrit par expérience, parce que lui, il en a eu des déboires, il en a eu des hauts et des bas, mais dans sa vision, dans sa compréhension, la louange devait rester continuelle, y compris dans les moments les plus difficiles. Que se passe-t-il quand vous louez Dieu ? Eh bien, tout simplement, vous prenez une position spirituelle et ça plaît à Dieu. Vous prenez une position spirituelle de dire « j'ai pas la solution, mais je fais confiance à mon Dieu, il va se passer quelque chose ». Ça, le monde ne connaît pas, là. On est dans un autre terrain. On parle du terrain de la foi. Alors, ce n'est pas de la raison humaine, ce n'est pas des calculs. Évidemment, si vous regardez à vue humaine, vous allez dire « on ne va pas y arriver ». Et c'est pour ça que la foi nous permet de dégager du terre à terre pour entrer dans le surnaturel divin. Jésus, il était constamment dans la foi. Hein. Quand Lazare était mort, il dit « mon ami dort, allons le réveiller, on va le réveiller ». Donc, pour Jésus, quand il est devant le tombeau, il est quand même dans la foi qu'il va y avoir la résurrection. Il est dans la foi. Ça, c'est la confiance dans l'adversité. Et quand vous louez alors que les éléments sont négatifs, eh bien, Dieu se réjouit et il bénit. Ça, c'est Dieu qui intervient. Quand vous louez dans l'adversité, eh bien, ça plaît à Dieu. Vous faites plaisir à votre Père céleste. Il aime ça. Et Jésus a manifesté sa joie, si vous vous rappelez, quand les 70 ont été envoyés en mission, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, ils disent « Ah, Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur a dit « Mais j'ai vu Satan tomber du ciel. » Extraordinaire vision. C'est une vision spirituelle. Satan est tombé du ciel et la Bible dit qu'il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Vous aviez remarqué cette expression ? La joie, mais par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la joie du monde. Ce n'est pas la joie d'avoir gagné, je ne sais pas, vous avez gagné au loto, ah, il y a une joie extraordinaire. Ce n'est pas cette joie-là, ça, c'est la joie matérielle, c'est la joie du monde. Mais la joie du Saint-Esprit, c'est celle-là qu'il nous faut, frères et sœurs. Et cette joie-là, elle ne viendra que dans une communion avec Dieu et dans la proximité avec le Père céleste. Et c'est là qu'il a dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. » On doit avoir un cœur comme des enfants, un cœur simple. Vous avez remarqué combien les enfants sont joyeux facilement ? Ils rigolent presque pour tout. Ils rigolent facilement. Et il y a un rien, il y a un truc qui tombe, ils rigolent. Ils ont une joie un peu, on dirait, ils ne sont pas matures. Ils sont enfantins. Mais quelque part, ils ont une simplicité, une joie qu'avec l'âge adulte, on a perdu. On a perdu cette joie simple. Et alors, on voit un truc qui tombe, et voilà, on va dire, mince, alors c'est tombé. On va se plaindre. On est à l'envers. Donc, le diable fera tout pour vous enlever la joie et vous montrera toujours le verre à moitié vide. Il y a le verre à moitié plein, mais non, regardez bien, il manque encore un bout. Vous ne pouvez pas vous réjouir encore, parce qu'il manque la moitié. Mais il y a la moitié qui est pleine quand même. Non, il faut regarder l'autre moitié. C'est vide de ce côté-là. Et donc, comme on va focaliser sur le manque, on ne va pas se réjouir. Alors qu'on devrait se réjouir pour les bénédictions qu'on a déjà. Mais Jésus nous a promis, quand on est en Christ, si on est vraiment ferme avec le Seigneur, il a dit « Nul ne vous ravira votre joie ». Si vous êtes vraiment en communion avec le Seigneur, cette joie, elle est communiquée. La joie, d'ailleurs, se communique parce que Paul et Silas se sont entraînés mutuellement dans la louange et en s'entraînant à deux, ils ont communiqué leur joie à tous les prisonniers qui les entendaient chanter les louanges de Dieu. Et ça, c'est si vous avez la joie du Saint-Esprit, ça va se communiquer. Vous allez entraîner les autres. Alors, c'est vrai, il n'y avait pas de musiciens. Ils n'avaient pas le vidéoprojecteur, ils n'avaient pas les facilités qu'on a comme on se réunit. Mais il y avait la joie. Il y avait la joie. Est-ce que nous, on a la joie quand on a tout le confort ? On peut louer Dieu. On peut louer Dieu partout. On peut louer Dieu à la maison, on peut louer Dieu dans la voiture, on peut louer Dieu, on peut écouter des louanges et se réjouir devant le Seigneur. Et dans la présence de Dieu, eh bien, on peut exprimer notre reconnaissance et notre joie. Le deuxième point, c'est la joie de voir l'intervention de Dieu. Et là, je vais au verset 26. C'est un petit tournant, parce qu'on a la partie j'ai décidé de louer Dieu au milieu de la nuit, dans l'obscurité. Et le verset 26, maintenant, c'est la part de Dieu. Tout à coup, tout à coup. Tout à coup, Dieu prend le contrôle de la situation et tout va changer. C'est-à-dire que Dieu dispose des temps et des circonstances. Il va y avoir les chaînes qui vont tomber, tous les prisonniers, toutes les portes vont s'ouvrir. Il va y avoir un miracle. Ça, c'est la part de Dieu. Le geôlier, les prisonniers ne comprennent pas. C'est... D'ailleurs, ce qui est encore plus incompréhensible, parce que déjà, le tremblement de terre, les chaînes qui tombent, il y a un truc complètement incompréhensible, c'est qu'il y a des centaines de prisonniers qui sont là, les portes sont ouvertes et il n'y en a pas un qui sort. C'est étrange. C'est Dieu qui les a calmés. Parce que vous faites ça dans n'importe quelle prison en France, vous ouvrez toutes les portes, j'aimerais pas être gardien dans cette prison. Parce que là, c'est certains qui vont tous sortir de tous les moyens. Ils vont chercher tous les moyens de sortir. Mais quand il y a Dieu dans la situation, c'est un miracle ça aussi. C'est que Dieu a maintenu les prisonniers dans leur geôle. Alors ça, c'est l'intervention de Dieu. Peut-être votre compte bancaire est à sec, mais tout à coup, un remboursement arrive et la situation se débloque. Peut-être vous êtes seul dans la vie, vous n'avez pas de solution, et tout à coup, une personne arrive pour vous aider et vous montrer le chemin. Ou peut-être vous êtes malade, les diagnostics du médecin sont pessimistes, et tout à coup, Dieu intervient, vous sortez de la situation défavorable. Ça, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu. Ça commence avec un tremblement de terre. Moi, je ne crois pas que le tremblement de terre est venu par hasard. Il y a beaucoup de gens qui croient dans le hasard. Ils disent, oui, le monde, il existe par hasard. C'est par hasard. Et tout est par hasard, finalement. Non. En fait, il n'y a pas de hasard. En réalité, c'est Dieu qui conduit toute chose. Ça, on doit le comprendre. C'est Albert Einstein qui disait, Dieu ne joue pas au dé. Il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas par hasard que tout ça s'est fait. Donc, Dieu dispose des lois naturelles. C'est vrai que Dieu peut créer un tremblement de terre, s'il veut. Mais pourquoi il l'a créé, il l'a suscité ici, dans cette prison, et que ce tremblement de terre n'a pas fait effondrer la prison, mais a juste ouvert les portes. Donc c'était un tremblement de terre bien calculé. Ensuite, les portes se sont ouvertes. Ça, c'est un indice dans la parole que Dieu ouvre les portes qui sont fermées, frères et sœurs. Si vous avez une porte fermée devant vous, Dieu est puissant pour l'ouvrir. Parce que comment vous voulez ouvrir une porte de prison? Franchement, si vous êtes prisonnier, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Il n'y a qu'une intervention extérieure. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de mieux fermé qu'une porte de prison? C'est très, très bien fermé. C'est mieux fermé que votre porte de maison. C'est vraiment sécurisé pour éviter que les gens s'échappent. Donc, le geôlier... Il savait très bien que si les portes s'ouvrent, si les prisonniers s'échappent, il allait lui-même payer de sa vie le départ des prisonniers. Donc si vous êtes devant une porte fermée, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous avez le choix encore, eh bien, vous pouvez décider de louer Dieu devant la porte fermée. Et vous allez bien voir comment Dieu va agir. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas forcer la porte, vous ne pouvez pas cogner de la tête dessus, vous ne pouvez pas prendre un morceau de bois, essayer de l'ouvrir, elle ne bougera pas. Donc forcément, vous êtes limité. Mais par contre, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est de louer Dieu. Ça, vous pouvez le faire. La porte est fermée, mais vous pouvez louer Dieu. Et après, vous allez bien voir comment Dieu va agir. C'est dans Apocalypse 3:8, où il est dit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte. » Cette porte ouverte, c'est Dieu qui l'ouvre. Parce que si Dieu l'ouvre, personne ne pourra plus la fermer. L'impossibilité devant laquelle vous êtes peut-être ce soir n'est jamais une impossibilité pour Dieu. Pour les apôtres, c'était impossible, ils étaient bloqués. Pour Dieu, c'était jamais impossible, il avait encore une solution. C'est comme Josué devant les murs de Jéricho. C'était impossible de franchir ces murs parce que c'était des murs épais, c'était des murs hauts. Le peuple n'était pas suffisamment armé pour cela. Mais Dieu dit dans Josué chapitre 6, verset 2, parce que pour Dieu, ce n'est pas un problème, « Vois, je te livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. » Josué pouvait dire, « Mais c'est pas possible. C'est trop barricadé. Les murs sont trop hauts. On ne pourra jamais y arriver. » Alors Dieu lui donne la stratégie qui n'a rien à voir avec nos stratégies. Il va falloir faire le tour de la ville, une fois par jour pendant 6 jours, sept fois le septième jour, sonner des trompettes, pousser un grand cri, et puis le mur va la muraille va s'écrouler. Donc, à un moment donné, c'est juste faire confiance à Dieu et obéir. Et c'est ce qu'ils vont faire, et c'est comme ça qu'ils vont remporter la victoire contre Jéricho. Et là, c'est pareil, les liens des prisonniers sont tombés, et ça nous parle aussi des liens qui existent dans les vies, ce sont des liens spirituels. Eh bien, ils ne tomberont pas autrement que dans la prière et la recherche de Dieu. Et c'est ainsi que les liens du péché, les liens de la convoitise, de la méchanceté vont tomber. Ce sont des liens invisibles. Mais croyez-moi que dans ce monde, il n'y a pas de médicament pour guérir ce type de liens, parce que ce sont des liens spirituels. Et regardez le psaume 107, verset 16. Il n'y a que la prière qui peut faire tomber ces liens. Psaume 107, verset 16. Car, c'est Dieu, car Dieu a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Il y a des portes barricadées, il y a des liens qui sont puissants, mais ils vont tomber dans le nom de Jésus. C'est pour ça qu'on a de la prière, c'est pour ça qu'on fait des prières le mardi, que chacun doit prier pour sa part chaque jour, qu'on a des temps de jeûne et prière. C'est parce qu'on sait que la prière est efficace pour faire tomber les chaînes. Et puis je termine avec un troisième point, c'est la joie du salut. Parce que c'est cette joie qu'on voit ici dans la prison, que le monde ne connaît pas, c'est une joie que Dieu donne. Et le geôlier, lui, il ne l'avait pas cette joie, il était dans le monde, dans cette illusion que voilà, on est là, puis après demain on mourra, puis après on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Et du coup, comme on a dit, les portes se sont ouvertes, les liens des prisonniers sont tombés, lui, il croyait que les prisonniers allaient s'enfuir. Et donc, il avait sorti une épée pour se suicider. Paul reçoit par l'esprit une révélation. Et il dit, sans le voir, il lui dit, arrête, ne te fais pas de mal, arrête. Ça, c'est la parole du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il va y avoir le salut qui va rentrer. Il va y avoir le salut qui va rentrer dans la vie du geôlier, de sa famille, de ces gens qui étaient autour de lui, parce qu'il y a eu une intervention de Dieu. Seule la joie que Dieu donne est durable. Vous connaissez bien le psaume 23, il est dit au verset 6, « Oui, c'est la fin du psaume, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ça, c'est pour les enfants de Dieu. « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Mais oui, le bonheur et la grâce, c'est-à-dire la joie de Dieu. Cette joie ne dépend pas de votre âge, de vos circonstances, elle est liée au salut. Si vous avez accepté Jésus, alors vous avez été pardonné de vos péchés. Rappelez-vous la joie que vous avez eue le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur. C'est cette joie-là, cette joie qui vient d'en haut. Vous êtes né de nouveau, vous appartenez à Jésus, quelle joie! Quel bonheur! On est sauvé. Et puis après, avec le temps, les épreuves de la vie, les difficultés, on perd un peu cette joie, et voire elle disparaît. Donc revenons à ces paroles pour ranimer la joie, l'entretenir. Et lorsque cet homme, donc ce geôlier, entend le message du salut, il croit, il est sauvé lui et sa famille. Et logiquement, qu'est-ce qui se passe quand vous avez accepté Jésus? Vous demandez le baptême et il est baptisé par immersion. Luc chapitre 15 verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Cet homme, en fait, sa destinée a changé, il est rentré dans le salut, il allait se suicider pour échapper à la honte parce qu'on allait certainement l'exécuter à cause du départ des prisonniers. Donc le geôlier, au contraire, a accepté Jésus, il a été baptisé, c'est un acte d'obéissance. C'est une vraie conversion du cœur. En conclusion, c'est une histoire qui avait très mal commencé, peut-être comme ça nous arrive aussi, une histoire qui tourne mal. On est dans la prison, on est sous les coups. Et pourtant, ils choisissent de louer le Seigneur et ils sont dans la joie de Dieu. Ça, c'est le miracle. Et en étant dans la louange, dans la reconnaissance, alors qu'ils devraient plutôt se plaindre, eh bien, c'est Dieu qui intervient dans sa puissance pour régler la situation. Il ne faut pas qu'on soit fataliste. Ce n'est pas parce que la porte est fermée qu'elle sera toujours fermée. Ce n'est pas parce que la situation est difficile qu'elle sera toujours difficile. On est peut-être au milieu et peut-être qu'il reste encore un bout, mais derrière, il y aura la victoire. C'est Dieu qui fait le miracle. Alors ce soir, vous n'allez peut-être pas pouvoir changer votre situation du jour au lendemain, mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est d'être dans la reconnaissance, dans la foi, de vous attendre à Dieu. Commencez à chanter les louanges de Dieu, même au milieu de la nuit. Ayez la foi que Dieu peut tout faire. Et n'oubliez jamais le verset 26. Tout à coup, il se fit un grand bruit. Ça, c'est l'intervention de Dieu. Le tout à coup divin qui vient quand vous ne le savez pas, vous ne le prévoyez pas, et il arrive. C'est Dieu dans sa gloire qui manifeste sa puissance. Ayez la foi que Dieu peut tout changer. Cela plaît à Dieu quand vous avez la foi et quand vous le louez dans l'épreuve. Cette dimension de joie est pour nous, frères et sœurs. Quand je parle de la joie, quand il est dit « la joie de l'Éternel sera votre force », ce n'est pas la joie du monde. On parle bien de la joie des enfants de Dieu. On va prier quelques instants. Merci encore pour cet exemple, Seigneur, où tu nous montres que nous pouvons te louer dans l'obscurité, que nous pouvons recevoir une joie qui vient d'en haut. Oui, la joie de l'Éternel, cette joie qui n'existe même pas dans ce monde, mais que tu as réservée pour tes enfants. Et nous voulons nous aussi l'expérimenter dans la foi, Seigneur, comme Paul et Silas l'ont vécu, comme Jésus qui a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons expérimenter cette dimension de foi et nous attendre à ton action bénie, alors que même aucun indice ne montre une amélioration, alors que même la situation se dégrade sous nos yeux, eh bien nous voulons conserver, Seigneur, cette vision du Dieu du miracle, du Dieu de l'impossible, du Dieu de la restauration, du changement, du Dieu qui fait tomber les chaînes de métal et les liens spirituels, du Dieu qui ouvre les portes fermées, les portes barricadées, du Dieu qui fait tomber les murailles de Jéricho, qui fait s'effondrer ces murailles impossibles, indestructibles. Ô Seigneur, tu es tout puissant pour agir ce soir et nous te rendons toute la gloire. Amen.